La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission que nous propose Radio Présence sur la prédication protestante. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Je suis le pasteur Luc Goyot, exerçant mon ministère sur la ville de Colomiers à l'église évangélique. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui, évidemment, sur le thème de la Pentecôte, puisque nous sommes dans le week-end de Pentecôte. Et c'est un événement très important dans l'histoire du christianisme. C'était une fête juive, et lors de cette fête juive, beaucoup de personnes étaient réunies à Jérusalem. Il va se passer un événement extraordinaire, puisque un groupe d'hommes et de femmes étaient réunis dans une chambre haute, et ils vont être visités par le Saint-Esprit. Parmi ces hommes et ces femmes, il y avait les disciples, les 11 disciples qui restaient, puis aussi Marie, la mère de Jésus, et d'autres personnes. C'était 120 en tout. Et c'est un jour glorieux où Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite au travers des prophètes de l'Ancien Testament, comme Joël par exemple, et aussi par Jean-Baptiste, qui est venu annoncer la venue de Jésus et qui parlait de lui en disant que lui, il nous baptiserait de feu et d'esprit. Le Saint-Esprit a été donné, c'est un don gratuit, et il est désormais offert à tous ceux qui s'approchent de Dieu, et qui croient en son Fils Jésus, qui se convertissent à la foi chrétienne. Et c'est un cadeau, donc puisque c'est un don, et on peut se demander, et j'aimerais qu'on se demande ensemble cet après-midi, ce que nous faisons de ce cadeau précieux. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 19, Paul nous conjure de ne pas éteindre l'esprit. C'est un conseil important donné en mode impératif. Peut-être vous vous posez la question de savoir d'abord si l'Esprit de Dieu vous a été donné ou pas. Beaucoup de croyants se posent des questions et doutent de cela. J'aimerais vous donner, parler avec vous de quatre effets visibles de la présence du Saint-Esprit en nous qui pourra vous aider à savoir si réellement vous avez reçu le Saint-Esprit ou non. Un des premiers effets, c'est celui d'avoir un désir ardent de témoigner de notre rencontre avec le Christ, de désirer apporter son enseignement autour de nous et de le faire avec spontanéité et en même temps autorité. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, au verset 8, Jésus fait cette promesse aux disciples juste avant l'ascension. Il leur dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous voyons ici que la première raison pour laquelle le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour être des témoins. Le mot employé en grec est d'ailleurs encore plus fort, puisqu'il signifie littéralement « martyr ». La première question que nous pouvons nous poser, si nous sommes chrétiens, réellement engagés, convertis, voulant suivre le Christ et le servir, la première question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que nous avons ce désir d'être des témoins, d'annoncer la bonne nouvelle de Christ autour de nous? Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que les premiers chrétiens saisissaient toutes les occasions et ils surmontaient leurs peurs, leurs craintes, même devant les tribunaux qui les menaçaient de mort. Ils continuaient de parler de Jésus, de celui qui était venu pour les sauver. Donc, la première manière d'être un témoin, c'est bien sûr d'annoncer le message, de le partager, non pas d'essayer de contraindre ceux qui nous écoutent à y adhérer, mais le partager tout simplement, comme quand n'importe qui le ferait quand il a une bonne nouvelle qui est venue et qu'il a envie de partager avec ceux qui l'entourent. Dans le même livre des Actes, au chapitre 2, verset 42, il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Le fait de vouloir être un témoin ne s'improvise pas totalement. Nous ne pouvons pas dire « J'ai le Saint-Esprit, donc je vais pouvoir parler de la bonne nouvelle de Christ ». Non, nous devons, bien sûr, connaître son enseignement. Et donc un bon témoin, c'est quelqu'un qui a soif aussi de connaître les Écritures et l'enseignement de Christ. Est-ce que c'est ton cas? Tu peux te poser cette question. Et puis je voudrais faire deux remarques aussi dans ce premier point, pour terminer ce premier point, disant que le témoignage ne vient pas seulement de ce qu'on dit, bien sûr. On voit dans la suite du verset 42 du chapitre 2 des Actes qu'il est dit « Il persévérait aussi dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc la vie communautaire était importante. Le fait de se retrouver, le fait de partager des temps comme la prière, comme la scène, la fraction du pain fait référence au moment où on prend le repas de la scène. Tout ça était un témoignage, si vous lisez la suite de ce verset, les gens, en voyant tout cela, venaient et s'ajoutaient à l'Église. Jésus a dit aussi à ses disciples, « Aimez-vous, c'est un commandement nouveau que je vous donne, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc c'est bien un témoignage de vivre l'amour fraternel entre chrétiens. Et puis le deuxième point qui me fait dire que l'esprit, c'est pas seulement ce que l'on va dire, mais c'est aussi ce que l'on est. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22, nous dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » C'est une belle liste, n'est-ce pas? Je pense que ce sont tous des points qui qualifient qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre but, c'est de lui ressembler, et évidemment, impossible pour nous de le faire si nous n'avons pas le secours du Saint-Esprit. Et donc, si vous manifestez ces fruits, comme l'amour, la joie, la paix, toute cette liste, eh bien, vous pouvez être certain que l'Esprit de Dieu est en vous. Le deuxième effet du Saint-Esprit dans nos vies, c'est qu'il nous pousse à aspirer à être continuellement renouvelés en Christ. Le fait qu'on soit convaincu d'avoir reçu le Saint-Esprit ne doit pas entraîner qu'on se repose sur ses lauriers, mais qu'on cherche constamment ce renouveau que nous accorde l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies. Dans le livre des Actes, à la fin du chapitre 4, il est dit que les disciples de Jésus s'étaient réunis ensemble, les chrétiens, parce que Pierre et Jean avaient été menacés s'ils continuaient à répandre l'Évangile, à témoigner de leur foi. Et là, dans ce moment-là, ils vont pas demander d'être protégés, ils vont pas demander le secours de Dieu, ils vont demander de pouvoir témoigner avec encore plus d'assurance. Et savez-vous ce qui se passe à ce moment-là, au chapitre 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc ces mêmes apôtres qui étaient là pour la Pentecôte étaient là à nouveau réunis, avec d'autres bien sûr, qui s'étaient ajoutés, et à nouveau ils sont remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une fois la Pentecôte, ce n'est pas une date précise dans notre vie, tel jour j'ai été rempli du Saint-Esprit, ce doit être un renouveau permanent. Les disciples ne se satisfaisaient pas de ce moment qu'ils avaient vécu le jour de la Pentecôte, mais ils voulaient revivre d'autres moments tels celui-ci. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 20 à 24, voici ce que dit Paul. « Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ici, nous voyons clairement que parce que le vieil homme est toujours là avec sa corruption, nous avons besoin constamment d'être régénérés, renouvelés. La nouvelle naissance n'est pas une acquisition définitive. Le péché est là et veut refaire surface dans nos vies. Et c'est uniquement par la présence du Saint-Esprit qu'il n'y parvient pas. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 16, dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». C'est en marchant selon l'Esprit, c'est en se laissant remplir de l'Esprit que nous pouvons surmonter notre vieille nature, notre chair, et uniquement comme cela, non pas avec nos efforts et les bonnes résolutions que nous pouvons prendre. Le troisième effet que nous trouvons, c'est de voir que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne sont plus aux commandes de leur vie, mais se laissent diriger par lui. Dans Acte 16, Acte chapitre 16, verset 9 et 10, il est dit que Paul, qui avec ses amis avait fait tout un plan pour aller évangéliser une partie du Moyen-Orient, ils avaient plusieurs pays en vue, mais pendant la nuit, il a une vision et un Macédonien lui apparaît et lui fait cette prière « Passe en Macédoine, secours-nous ». Et il est dit qu'après cette vision, tous cherchèrent aussitôt à se rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur les appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc une disponibilité, on peut faire des plans, si le Saint-Esprit nous pousse à faire autre chose, eh bien nous sommes immédiatement partants. Paul dira aussi plus loin, dans le même livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 22, « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » On sait que Paul va vivre la persécution là-bas, il va frôler la mort même, il sait que c'est ce qui va lui arriver, mais lié par l'Esprit, il y va. C'est l'Esprit qui le conduit et non sa propre intelligence. Paul et ses collaborateurs se laissaient guider par l'Esprit, ils ne décidaient plus rien par eux-mêmes. Ils sont comme cet homme né de nouveau que Jésus décrit en parlant à Nicodème, dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, verset 8, où il lui dit ceci, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Extraordinaire, non? Et en même temps tellement terrifiant. Ce n'est plus nous qui décidons, nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait, c'est Dieu qui fait des projets pour nous, et nous, nous entrons dans ces projets parce que, croyez-moi, je suis bien placé pour vous le dire. Quand vous acceptez de rentrer dans les projets de Dieu, oui, cela peut faire peur. Oui, on sait des sauts dans l'inconnu. Mais croyez-moi, vous n'êtes jamais déçu. Jamais déçu. Les projets de Dieu sont toujours bons pour nous, et donc il est bon de se laisser guider par le Saint-Esprit. Le quatrième effet que je voulais partager avec nous, et je ne prétends pas que ma liste soit exhaustive, celui qui est rempli du Saint-Esprit est transcendé au sein de l'épreuve. Dans Acte 16, versets 23 à 25, voici ce qu'il est dit. Il est parlé ici de Paul et son compagnon Silas. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. En recommandant au geôlier de les garder sûrement, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. C'est un magnifique passage qui m'interpelle, qui m'interroge sur moi-même. Deux hommes qui viennent d'être maltraités alors qu'ils sont innocents, alors qu'ils travaillent pour Dieu, auraient pu avoir une mauvaise réaction en se plaignant de leur sort, en criant à l'injustice, en questionnant Dieu, en lui demandant « Mais c'est comme cela que tu agis envers ceux qui te servent ?» Non, le Saint-Esprit est en Paul et en Silas et leur conduit à faire toujours les bons choix. Et le bon choix, lorsque nous traversons l'épreuve, c'est de continuer de louer le Seigneur et de lui faire confiance. Le mauvais choix, c'est de nous plaindre et de nous lamenter sur notre sort. La conséquence de ce bon choix, c'est premièrement qu'ils vont être délivrés miraculeusement de cette prison, incroyable vu toutes les mesures de sécurité qui ont été prises par le geôlier. Vous pourrez lire le contenu de ce récit dans Actes chapitre 16, je crois que c'est à partir de la moitié de ce chapitre. Et puis la deuxième conséquence, c'est que le geôlier et toute sa famille vont se convertir à Christ. Et oui, encore une fois, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons des témoins. Et en étant des gens joyeux qui continuent de louer le Seigneur même au sein de l'épreuve, eh bien, nous sommes des témoins parce que nous interpellons. Quelqu'un qui est victime d'une injustice et qui garde le sourire et qui rend gloire à Dieu va forcément interpeller ceux qui l'entourent. C'est une histoire extraordinaire. Je vous invite à lire dans le livre des Actes, au chapitre 16. Un peu plus loin, dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul nous dit ceci, au verset 4, verset 11 et suivant. « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Celui qui le fortifie, bien sûr, nous le savons, c'est Christ. C'est une parole extraordinaire que nous délivre Paul, alors que, ben justement, à nouveau, il est en prison. Lorsqu'il écrit l'Épître aux Philippiens, il est en prison. À cause de sa foi, il n'a rien fait de mal. Il pourrait se lamenter sur son sort, mais non. Il a appris. Évidemment, ça s'apprend avec l'aide du Saint-Esprit. Ça ne vient pas d'une manière magique, mais avec l'aide du Saint-Esprit, au fur et à mesure de notre existence et des diverses difficultés que l'on peut rencontrer, on apprend. On apprend à être content, à être heureux en Christ, quel que soit l'état où nous sommes, la situation que nous traversons. C'est extraordinaire, c'est surnaturel. Cela vient du Saint-Esprit. Amen. Et de Christ. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Christ en nous. En nous, à l'intérieur de nous. L'apôtre Paul dira, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est extraordinaire, non ? Donc avoir le Saint-Esprit en soi, nous venons de le voir, ce n'est pas juste, pardonnez-moi, une chimère ou une fiction. Ce sont des effets concrets et réels dans nos vies. Ce n'est pas une forme de spiritualité où on est déconnecté de la réalité, on est proche de Dieu et on ne pense plus à rien d'autre. Ça peut être occasionnellement cela, mais c'est surtout dans mon quotidien les effets de la présence du Saint-Esprit qui sont visibles. Alors, je termine ce temps en vous posant la question, vivez-vous la Pentecôte ? Ou est-ce que pour vous c'est juste une fois par an que vous célébrez cet événement qui a eu lieu il y a pratiquement 2000 ans ? Si c'est cela seulement, c'est bien insuffisant. La Pentecôte, nous sommes invités à la vivre au quotidien, à vivre ce renouveau de l'esprit en nous, chaque jour, parce que chaque jour nous avons besoin d'être vainqueurs sur notre ancienne nature. Donc, si vous êtes rempli de l'Esprit, vous pouvez dire ce matin, j'ai soif de partager la bonne nouvelle de Christ. Je le fais avec assurance, non seulement par mes paroles, mais aussi par ma vie. Si je suis rempli du Saint-Esprit, je cherche continuellement à être renouvelé dans ce Saint-Esprit. Et puisque j'ai ce Saint-Esprit en moi, je ne le laisse pas juste sur une étagère, comme on pourrait donner une image, mais je veux qu'il dirige ma vie, que ce ne soit plus moi qui tienne les rênes, mais que ce soit le Saint-Esprit qui me conduise. Et puis, si j'ai réellement l'Esprit de Dieu en moi, alors je suis transcendé lorsque je traverse l'épreuve. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ces temps. Merci pour cette méditation, qu'elle puisse interpeller, qu'elle puisse rassurer ceux qui doutaient de la présence de l'Esprit en eux, qu'elle puisse donner soif à ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, comme c'était le cas des chrétiens d'Éphèse, à désirer le recevoir. Et que suite à ce moment, plusieurs puissent prier maintenant et dire « Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit comme tu me l'as promis. » Que ton nom soit glorifié. Amen. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois sur Radio Présence.
Souffler, souffler, souffler.